Silence.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Entre-deux-Mers 98.4 FM 3W.RE2M.com. C'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Damien.
Et bienvenue donc pour nous présenter les films de la semaine qui sortent dans les salles obscures.
Oui, tu vas bien
Ça va et toi?
Bah ça va aussi. Quand tu sais bien que quand on retrouve les auditeurs, on est en pleine forme tout de suite. On arrive, on est mouninga, et puis dès qu'on est avec eux, hop, ça part. T'es bien d'accord avec moi?
C'est ça.
Bonjour à mes chers auditeurs. En tout cas, merci de nous recevoir chez vous, si vous êtes là en ce moment, de toute façon. Oui, il y en a de très jolis quand même. Il y a 3-4 films qui sont très jolis. Oui, ça démarre bien là, hein, ça redémarre bien le cinéma, avec des chouettes films. Alors là...
Et d'ailleurs, on démarre tout de suite avec un film qui s'appelle Minari.
Oui. Ah bah oui, alors ça, Minari. Ah oui, bah c'est titré d'ailleurs, je dis tout de suite, magnifique et universel. Quand même, ça veut dire des choses. Oui, Minari, c'est un drame américain. Ça dure 1h56. Alors, il y a 3 nominations aux Oscars Academy Awards 2021. Et c'est de Lee Isaac Chung, qui est un réalisateur, scénariste, producteur américain. Il a 42 ans. Oh, il fait des merveilles. Il est jeune. 13 ans de carrière, 5 tournages à son actif entre 2007 et 2021. Il a quand même pas mal travaillé. Et puis pour 2021, Lee Isaac Chung, il a déjà tourné, il a préparé, c'est déjà fait. C'est dans la boîte, un film d'animation, de science-fiction, c'est romancé. Ça s'appelle Your Name et ça va sortir prochainement, donc on en parlera ici à l'antenne. En fait, c'est le remake américain du film d'animation japonais sorti en 2016, du même titre, de Makoto Shinkai. Ah, qu'on a déjà vu. Donc, Isaac Chung, quand il s'y met. Donc là, c'est quoi? C'est l'histoire d'une famille américaine d'origine sud-coréenne qui s'installe dans l'Arkansas, où le père de famille veut devenir fermier. Son petit garçon devra s'habituer à cette nouvelle vie et à la présence d'une grand-mère coréenne qu'il ne connaissait pas. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, Damien, on en avait déjà parlé de ce film.
Tout à fait, oui.
Il devait sortir déjà il y a un moment, cette histoire de cette grand-mère formidable qui arrive et le petit garçon qui ne la connaît pas, donc il va faire connaissance avec elle, une femme lumineuse. Et on en avait, oui, on avait dit des choses là-dessus déjà. Surtout que l'actrice qui joue la grand-mère, justement, qui s'appelle Yoo Young-yoon, elle a été primée, elle, hein. Elle a, pour ce film, elle a vraiment été nommée et primée comme meilleure actrice, hein, dans un second rôle. Elle a 74 ans, cette actrice, et elle est sensationnelle, comme, vraiment. Alors sinon, on a Steven Yeun, qui est un acteur américain, d'ailleurs. On a une actrice sud-coréenne, Ye Ri Han. Et puis on a Alan S. Kim, qui est un acteur américain, il a 9 ans. C'est lui, le petit garçon. Il est adorable, il est vraiment bon. Ben voilà, il fait très bien son job, hein, vraiment. Et puis on a Noelle Kate Cho, qui est une actrice américaine, qui a 12 ans, elle. Pas mal non plus. On a Will Patton. Alors lui, on le reconnaît quand on le voit, si on a l'habitude quand même du cinéma. On reconnaît son visage, on sait qu'on l'a déjà vu. Doué, très doué. Et puis on a Scott Haase aussi, acteur américain. Mais c'est un beau casting, en fait, hein. Très, très beau casting et pour ce film. Et en fait, là, donc le réalisateur. Ah oui, alors j'ai dit hein, que le film a remporté plusieurs prix. Voilà, le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère, ainsi que le BAFTA aussi de l'Oscar du meilleur second rôle, justement, c'est ce que je disais, pour cette actrice Yoo Young-hyun qui joue le rôle de la grand-mère. Alors, le Minari, quand on le traduit, ça veut dire le cresson de fontaine. C'est du cresson, ça se mange, hein, le cresson de fontaine, en français en tout cas. Alors c'est une espèce de plante potagère qui pousse dans les lieux isolés, des fossés ou des ruisseaux boueux, enterrés dans des fourrés. Ça se trouve pas comme ça en fait, hein. Il faut bien chercher pour trouver ce fameux cresson.
Oui, il y a du cresson de fontaine qui est cultivé, notamment du côté de Saint-Pierre-d'Aurillac, à la
Ah!
cressonnière de Hugues Bladé, où on peut retrouver du cresson
Ah, c'est
quand
intéressant
c'est la
ce que
période.
tu dis. C'est où, tu dis?
À Saint-Pierre-d'Aurillac.
Ah, Saint-Pierre-du-Rac, mes chéris, vous notez ça, si vous aimez le cresson, qui est quand même une salade très, très bonne, le cresson.
Il y a
C'est bon,
plein,
hein?
plein, plein de qualités
Ah,
et de
oui.
bienfaits pour l'organisme.
Ah, moi, j'adore avec des œufs durs coupés dans le cresson. Qu'est-ce que c'est bon? Ah oui. On va donner une recette si ça continue du cresson. Alors voilà, donc pas facile à trouver quand même, là, hein, enterré dans les fourrés, tout ça. Et la grand-mère du réalisateur, c'est ce qu'il nous dit, hein. Il se souvient de ça. On avait planté quand elle est arrivée aux États-Unis. Elle lui avait raconté ça. Et souvent, ces graines viennent de loin. Elles sont cachées dans les poches des immigrants qu'ils apportent en cadeau à leur famille. C'est formidable, ça, quand même. Ils mettent des graines dans leur poche et ils leur amènent en cadeau les graines de cresson. Alors le cresson, il faut savoir hein, quand même, ça c'est le réalisateur qui le dit bien sûr, le cresson meurt la première année et il fleurit l'année suivante. Alors une fois qu'il a pris racine, la terre et l'eau autour de lui deviennent tout propres, ça devient tout propre autour. Voilà. Et le réalisateur nous dit, je le sais parce que je l'ai vu pousser. Mais oui. Voilà, c'est joli ça comme image. La terre et l'eau autour du cresson qui sont propres. C'est une belle image, ça donne envie de trouver ce cresson et de le manger en salade. Alors, à l'origine de Minari, en fait, il y a cette phrase de l'écrivaine Willa Cather. Ma vie a démarré lorsque j'ai cessé d'admirer et commencé à me souvenir. Alors, on avait parlé d'elle justement au moment où on avait parlé de ce film. C'est Willa Cather, elle est décédée en 1947. C'est une romancière américaine. Elle a obtenu la reconnaissance en tant que romancière de la frontière et de l'expérience pionnière, pardon. Elle est décédée à 74 ans, dommage. Elle aurait pu en écrire encore de beaux romans. Et alors, lui, le réalisateur Lee Isaac Chung, s'est alors interrogé sur lequel de ses souvenirs il aimerait laissé à sa fille. Alors il en a noté 80 de quand il avait l'âge de sa fille. Et il nous dit, cela incluait des disputes entre mes parents, la vision d'un employé de mon père qui traînait une croix en traversant la ville, et ma grand-mère brûlant la moitié de notre ferme. En me les remémorant, dit-il, j'ai pensé que c'était peut-être là que se trouvait l'histoire que je devais raconter. Voilà, c'est chouette quand même, hein. Alors, les personnages, il a voulu, lui, le réalisateur, qu'il ne voulait pas, en fait, qu'un des membres de cette famille devienne le protagoniste principal. Il veut que ce soit toute la famille. C'est la famille tout entière qui devient le héros. Minari, c'est l'histoire d'une famille américano-coréenne, mais j'espère, dit-il, qu'elle touchera les spectateurs d'où qu'ils viennent et quelle ait été leur enfance. Quelle qu'ait été leur enfance. Il me manquait un cul, là, quand même. Oh, mes chéris. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un film magnifique. Voilà, c'est vraiment. C'est le film à voir, quand même. Hein. Vraiment, là, dès que vous pouvez, toute affaire cessante, comme on dit, allez vite dans une salle obscure. Allez vite voir Minari. Très beau.
Minari, donc, à retrouver dès aujourd'hui en salle. Ensuite, nous allons continuer avec un film qui s'appelle Un espion ordinaire.
Oui, alors ça, c'est le film d'espionnage de l'année. Ça, c'est le film d'espionnage
Carrément.
à voir. Ah oui, c'est drame de l'espionnage, il y a du thriller, c'est un biopic également, c'est britannique. C'est de Dominic Cooke, qui est un réalisateur, producteur délégué britannique. Il a 54 ans, il a 5 ans de carrière au cinéma, parce que sinon, c'est un metteur en scène, c'est-à-dire il a mis en scène des pièces de théâtre, c'est un dramaturge et c'est un ancien directeur de théâtre. C'est pour ça que je dis 5 ans de carrière au cinéma. Il a fait tout le reste. Il a deux longs métrages à son actif. Et en fait, voilà. Et donc, là, ça se passe en 1960. Modeste représentant de commerce anglais, Greville Wine se retrouve plongé au cœur de la guerre froide. À la demande du MI6 et de la CIA, il noue une alliance aussi secrète que périlleuse avec le colonel soviétique Oleg Penkovsky. Objectif, fournir les renseignements nécessaires aux Occidentaux pour éviter un affrontement nucléaire et désamorcer la crise des missiles de Cuba. Il entame alors une série d'allers-retours entre Londres et Moscou en prenant de plus en plus de risques. Alors la CIA, je rappelle ce que c'est quand même, hein? Central Intelligence Agency. La CIA a été créée en 1947 par le National Security Act. En fait, c'est une agence de renseignement et c'est la plus connue des États-Unis, la CIA. Nous, en France, on a la DST, par exemple, pour donner. Et puis en Russie, c'est le KGB, pour donner un peu le. Voilà. Donc là, lui, il y a le MI6 et la CIA. Donc là, il est coincé entre les deux. Et c'est une histoire extraordinaire. C'était un biopic en même temps. Alors, on va expliquer pourquoi. Alors, d'abord, les acteurs. Ah, ben, les acteurs. Alors, on a le Britannique Benedict Cumberbatch. Lui, c'est un acteur extraordinaire. Alors, pour se le remémorer, cet homme-là, c'était Sherlock Holmes, au cinéma, en 2000, de 2010 à 2014, d'ailleurs. Il y a eu 2017, même, puisqu'il y a eu 4 saisons. Oui, c'est ça, saison 1, 2, 3, 4, oui, avec Martin Freeman qui joue le rôle du docteur Watson. Et pour le situer, Martin Freeman, c'est Bilbon Sacquet dans Hobbit, le voyage inattendu. C'est lui, Bilbon Sacquet, c'est lui, Martin Freeman, l'acteur.
À ne pas confondre avec Morgan Freeman.
Ah non, ah ben non. De toute façon, ils ne sont pas tout à fait de la même couleur non plus. Ah ben Morgan Freeman, grand acteur également, bien sûr. Non, non, lui c'est Martin Freeman et c'est le Hobbit. C'est lui, Bilbon Sacquet. Voilà. C'était pour le resituer. C'est un acteur extraordinaire parce que quand on le voit dans le Hobbit et quand on le voit avec Sherlock Holmes, c'est pas du tout le même homme. C'est le même acteur pourtant, mais c'est pas du tout le même homme. Ça fait partie des acteurs qui endossent des personnages et on oublie absolument l'acteur et on ne voit que le personnage. Ça, c'est quand même assez rare et c'est assez extraordinaire chez Martin Freeman en tout cas. Et puis là, alors c'est pour ça que je dis que c'est un casting impeccable. Ensuite, on a Anton Lesser également, qui est un acteur britannique aussi d'ailleurs. On a un acteur géorgien, Merab Nidzin. Alors, c'est pas facile à prononcer le géorgien, il va falloir que je m'y mette aussi. Niditine, ça finit en DZ2, c'est vraiment pas évident. Mais on a Rachel Brosnahan, qui est une actrice américaine. On a Jessie Buckley, qui est une actrice irlandaise. Et on a Maria Mironova, qui est une actrice soviétique. On a un peu tout le monde dans ce film. On a l'Irlande, la Géorgie, la Russie, l'Angleterre. Enfin, bon, bah, on a un peu tout le monde. Et d'ailleurs, Benedict Cumberbatch, moi qui parlais de Martin Freeman qui fait le docteur Watson, il le retrouve aussi dans Le Hobbit. Hein. Il existe, lui, dans Le Hobbit. Il fait Smaug et Necromunneur. C'est lui qui fait. Pareil, pareil, il est tellement dans le rôle qu'on a oublié que c'était lui. Et là, il est complètement différent, évidemment. C'est un film d'espionnage sous haute tension. Et ça, c'est titré comme ça. Et Cumberbatch est éblouissant. quand même, c'est pas rien quand même. Hein. Alors, le film s'intéresse à l'histoire vraie, c'est pour ça que je disais que c'était un biopic également, de l'homme d'affaires Greville Wine et de sa source russe, Oleg Penkovsky, dit Iron Bark. Ah oui, on l'appelait, lui, Oleg Penkovsky, on l'appelait Iron Bark. Il a aidé la CIA, donc Greville Wine, à pénétrer le programme nucléaire soviétique durant la guerre froide, ce qui mit fin à la crise des missiles de Cuba. C'est pas rien quand même, hein, un sacré personnage là. Ah oui, oui, c'est le film d'espionnage de l'année là. Hein, c'est un espion ordinaire. 1h52. Ah oui, c'est un film extraordinaire. On n'avait pas de bande, hein, peut-être, ah non, je ne sais pas, non, peut-être
si,
pas.
Si, si, on en a une que l'on peut écouter.
Ah, merci, oui.
Les Russes n'ont pas la capacité de frapper les premiers, et ils savent que nous, oui. Nous disposons encore pour quelques semaines de la supériorité nucléaire. Sans vous, rien n'est possible en Union soviétique.
Ce serait un grand service à rendre à la Grande-Bretagne.
Et au reste du monde.
Tout cela est fascinant. Je peine à croire que je suis en train de déjeuner avec des espions. Mais je suis représentant de commerce.
C'est ça. Vous êtes parfait. Vous êtes un civil, donc le KGB ne vous surveillera pas.
À Moscou, dites-vous que tout le monde est du KGB. Dites-vous qu'il peut y avoir des micros partout. Dès que vous mettez les pieds à Moscou, vous avez une seule chose à vendre.
Bonjour.
L'idée que vous n'êtes qu'un banal homme d'affaires. Je regrette que ce soit vous, mais Greville, il faut que ce soit vous.
Je te demande d'arrêter d'aller à Moscou. Je te le demande pour notre couple.
Je vous offre sur un plateau la meilleure source de renseignements qu'on ait en URSS au moment où deux superpuissances frôlent la guerre atomique.
Votre mission s'arrête là.
Il ne m'abandonnerait pas à une mort certaine. Je ne l'abandonne pas non plus. Et si je me fais prendre, il m'exécuterait, c'est ça ?
Ça a été ta journée ?
Oups.
La routine.
Terrible.
Un espion ordinaire.
Ça donne une idée quand même. Hein.
Oui, oui, oui.
Moi, c'est mes deux coups de cœur, là, Minari et Un espion ordinaire. Hein. Ce sont des films qu'on n'oubliera pas tout de suite quand même. Hein. Alors, et
là,
puis,
nous qu'est-ce... allons partir dans un tout autre genre.
Oh oui, vas-y.
Ça s'appelle Opération Portugal.
Ouais, et ça c'est quoi ? C'est une comédie. Voilà, comédie française.
Comédie avec sûrement le plus célèbre imitateur portugais de France, du moins. C'est un comédien, Jal.
Oui, ah, Jal, oui, oh, bah oui, Jal, il est formidable.
Qui imite le portugais à la perfection,
ah, oui,
alors
oui.
Qu'il n'est pas du tout portugais.
Mais c'est dans son spectacle, d'ailleurs.
Loulou-Coupter.
Le fameux portugais. Oui, l'opération Portugal. Alors, du Portugal, c'est de Franck Simière, qui est un réalisateur, acteur, producteur français. Il est créateur, il est adaptateur, il est metteur en scène également. Et puis, c'est son premier long métrage hein, de fiction. C'est l'histoire d'Hakim. Hakim, il a 35 ans. C'est un flic sympathique, un flic de quartier d'origine marocaine. Il doit infiltrer la communauté portugaise pour les besoins d'une enquête. Mais peut-on devenir portugais en 3 jours ? Ah, question ! Surtout quand on sait qu'en intervention, Hakim est une catastrophe ambulante. Sa maladresse et sa malchance se transforment, enfin transforment plutôt ses nombreuses initiatives en cataclysme. Ah oui, carrément. Le costume est clairement trop grand pour lui. Rapidement pris au piège entre ses sentiments et sa mission, Hakim, qui vit seul avec sa mère, va découvrir une communauté, mais aussi une famille. Alors là, bon, évidemment, Jal, tu l'as dit, ah oh, bah oui, Jal, bah, il joue Hakim, évidemment. Son vrai nom, c'est Jalel Biad, son nom de naissance d'ailleurs. Il a gardé Jal. Et en fait, il a fait partie, Jal, quand même, du Jamel Comedy Club. Hein, et il a un one-man show très, très au point où, justement, il y a ce fameux ce fameux sketch sur le portugais. Et il parle comme un portugais quasiment. Oui, il est assez extraordinaire de ce côté-là. On a Sarah Perls aussi dans le film. On a Pierre Azéma, Farida Ouchani. Dans la famille Da Silva, je prends José et Serge Da Silva. On a Eric Da Costa, Carmen Santos aussi. C'est un casting très sympathique. Très, très, très sympathique. Alors, en fait, la comédie, justement, elle est basée sur son fameux sketch, là, le portugais, dont il tient le rôle principal. C'est tout à fait ça. Alors, parmi les inspirations qui ont nourri le film, le réalisateur nous a cité les aventures de Rabbi Jacob. Alors, je rappelle, sorti en 73, de Gérard Horry avec De Funès, bien sûr, Claude Giraud. Et puis, il nous a nommé aussi La Chèvre, qui est sorti en 1981 de Francis Weber et avec Pierre Richard et Gérard Depardieu. Il a cité Mon nom et personne, sorti en 73 avec Terence Hill et Henri Fonda. C'était de Sergio Leone et Tonino Valéry. Bon, très beau film, Mon nom et personne, au fait. Si vous ne l'avez pas dans vos films, c'est dommage. Vous pouvez trouver le DVD pas cher du tout. Et vraiment, c'est un film tout à fait savoureux, avec un Henri Fonda qu'on ne connaît pas bien, justement, qui est très différent là dans ce film. Et un Terence Hill, extraordinaire, sautillant. C'est un très beau film, Mon nom et personne. Alors, il a cité également, là, le réalisateur, L'aventure, c'est l'aventure, sorti en 72 de Claude Lelouch avec Jacques Brel et Lino Ventura. Et il a cité Very Bad Trip, avec Bradley Cooper, de Todd Phillips, qui est sorti en 2009. Voilà, donc il a quand même des références assez intéressantes. On les connaît tous, en plus, ces films, normalement, quoi. Et pour Jal, en fait, sa principale référence, lui, c'est ce qu'il nous dit, a été Marie à tout prix, qui est sorti en 98, de Peter et Bobby Farrelly, avec Cameron Diaz et Ben Stiller. Très chouette film aussi, Marie à tout prix. C'est le personnage de Ben Stiller qui lui plaît à Jal, évidemment, parce que c'est un personnage qui est pris dans un engrenage duquel il essaie de sortir avec la meilleure volonté du monde, droit dans ses bottes, et qui subit complètement son sort. Voilà, ce qui crée des comiques de situation tout à fait géniaux, quoi. C'est vraiment c'est ça. C'est ce qui a plu à Jal dans Marie à tout prix. Opération Portugal, ça dure 1h30. Bon, alors, pour se détendre, franchement, il y a un... Il faut aller le voir pour se détendre.
C'est ça. Et on écoute la bande-annonce.
Opération Portugal.
J'ai discuté avec la voisine.
Bonjour, monsieur Akin.
Il cherche du monde à la poste.
Maman, je suis flic, moi. Je suis pas postier.
Vous connaissez cet homme ?
Police ! Bougez plus ! Aïe ! Akin ?
Les Colombiens sont parvenus à mettre au point un procédé qui permet de mélanger la cocaïne avec du ciment, ce qui la rend totalement indétectable. Ils sont arrivés sur ce chantier. C'est le chantier de la famille de Almeida. Ils vont faire venir un cousin éloigné.
On dirait moi un gypsy king.
On a moins d'une semaine pour faire de vous un vrai portugais.
Non, non, s'il vous plaît, pas ça.
Si.
Je vais faire de toi un vrai portugais.
Portugal, Portugal, stop, Portugal.
Qu'est-ce que c'est ?
Un hélicoptère.
Un hélicoptère.
Un hélicoptère.
Ça va pas être facile.
Ça va pas être facile. Il n'y arrivera jamais.
Ballard, qu'est-ce que je dois faire, moi ?
Arrête de faire semblant, tu sais très bien, c'est toi le chef.
Le chef de tout le chantier, là ?
Tiens.
J'espère qu'il va la trouver vite, cette coca.
Ah, vaudrait mieux.
Elle est où, cette boucle ?
Je goûte la qualité. Il manque un peu de goût. Mais j'ai une bonne année, quand même.
Vous jamais ce qu'on leur demande ! Pourquoi on est chef de division ?
Vous ouvrez ce matin !
Admets la femme moque ! Merde! Tu parles là?
Ouais.
Arabe, c'est pas compliqué, hein? Je suis comme du portugais, mais en arabe.
Il est doué quand même, hein?
Prends du saucisson.
Ah non, ça va, laisse, gentil.
Prends du saucisson?
Oh!
C'est gentil. On boit un coup?
Jamais que je travaille, hein?
Qu'est-ce qu'il fait?
Oh, il est pro, on vérifie le carrelage.
Il arrive.
Qui ça ?
Le bébé.
Tout va bien se passer, hein ? Tout va bien se passer.
Sors-moi ce petit !
T'inquiète pas, chef. Je sais ce que c'est. I wanna know. You ready? Come on, let's go.
Ça va, là? Vous dérange pas trop? C'est mission cocaïne ou l'amour est dans chantier?
Voilà, ça devait sortir en fin d'année 2020.
Oui, et oui.
Et au final, ça sort maintenant. Ça sort quand même Opération Portugal, donc une comédie d'été fraîche et légère.
Ah oui, mais il est très doué. Jal, il est très bon là-dedans. Hein.
Il est très,
tout
très
à fait.
Bon.
Ah oui, oui, tout à fait. Ah oui, absolument, oui. On n'est pas déçu par rapport à son one-man show. On n'est pas déçu du tout par sa prestation. Ah oui, pour se détendre, là, franchement, ça vaut la peine.
Et nous allons maintenant retrouver un film d'action qui s'appelle Shorta.
Shorta. Alors, ça signifie police en arabe, Shorta. Voilà, comme ça, on l'a dit. Ça dure 1h48. Donc, c'est un policier, un thriller. Il y a de l'action. C'est un film danois. Il est interdit au moins de 12 ans. Hein, on le note tout de suite. Ce sera comme ça, c'est fait. C'est une co-réalisation. Alors, il y a Anders Holm. Qui est un réalisateur danois. Et on a Frédéric Louis Ashvid, qui est un réalisateur danois également. Il y en a un qui a 32 ans, l'autre a 38 ans. Voilà, ils travaillent ensemble. Ils font des choses pas mal du tout. Ils ont fait pas mal de courts-métrages, en fait, ensemble aussi. Et puis, c'est vrai qu'ils avaient, Anders Holm là, avait sorti un film de musique rap pour les jeunes sur le choix de soi et la réalisation de ses rêves. C'était en 2014 et ça s'appelait Aktevar, le film. Il a eu beaucoup de succès là-bas, hein, en tout cas. Oui, il a eu beaucoup de succès chez eux. Alors, c'est quoi cette histoire de Shorta, de police? Talib, à 19 ans, c'est un adolescent noir qui meurt des suites de blessures mortelles en garde à vue. Son décès provoque une révolte dans la banlieue de Copenhague au moment où deux policiers que tout oppose, Chance et Mike, s'y trouvent justement en patrouille. Pris en chasse, ils vont devoir se frayer un chemin pour échapper aux émeutes. S'engage alors un affrontement implacable. Ah oui, ça rigole pas du tout là. Hein. C'est une histoire extrêmement sensible et violente. Alors on a dans les rôles de Mike, on a un des policiers, on a Jacob Lohmann, et le deuxième rôle, Jens, c'est Simon Sears qui s'y colle. Ensuite on a Park Zaya, on a Lara Aksoy. On a Dolphy Al Jabouri. Alors, ce sont des acteurs danois hein, que je cite là. Donc, c'est un film. Ils sont très connus chez eux, par contre. C'est un film qui a été présenté dans tous les festivals Ciné Europa, Les Arcs, Zurich, Busan, etc. Hein, pris dans tous les festivals. Il y a c'est titré d'ailleurs des performances impressionnantes et une technique soignée. Un thriller brutal et captivant, des scènes d'action immersives et d'adrénaline. C'est bourré d'adrénaline. Elles sont immersives et bourrées d'adrénaline. Voilà comment c'est titré quand même. On sait à quoi s'attendre à ce moment-là. Les deux réalisateurs, ils n'ont pas voulu faire un film politique. Ils insistent là-dessus. Hein. Leur but, c'est de comprendre le pourquoi des actions et des visions du monde propres à leurs personnages. Alors, ils nous disent, les jeunes hommes en colère, privés de leurs droits dans les projets de logement, se sentent diabolisés et incompris surtout, ainsi que les policiers surmenés et sous-payés pour qu'il en va de même. Eh oui, ils sont tous au bout du rouleau, là. C'est un film de genre, avec pour référence, réalisé dans les années 70-80, des films qui ont été réalisés dans ces années-là. Par exemple, il y avait Sidney Lumet, par exemple, qui avait avec son film Jugez-moi coupable, qui est sorti en 2006, où il y avait Mise à nu aussi, sorti en 2004, de Sidney Lumet, qui est un très très grand réalisateur, décédé en 2011 lui. Alors portés par des anti-héros. C'est vraiment des anti-héros, hein, mais qui sont complexes. C'est très compliqué de les comprendre. Mais ce ne sont pas des héros, ça c'est important de le souligner. Alors, les réalisateurs pensaient aussi à Spike Lee. Alors, celui-là on avait parlé d'ailleurs. Black Lanceman, hein, qui parle quand ils ont. C'était J'ai infiltré le Ku Klux Klan. sorti en 2018. On en avait parlé ici à l'antenne de Radio Entre-deux-Mers de ce film qui est très beau, mais qui est très dur aussi. Hein. Ah oui. Il y avait aussi Les Rivières Pourpres aussi, comme référence, sorti en 2000. La Haine, sorti en 1995. Gothica, sorti en 2013. Ils se sont inspirés de Old Boy également, sorti en 2014. Inside Man aussi, L'Homme de l'Intérieur, sorti en 2006. Alors, Old Boy, moi, je l'ai vu, c'est terrorisant, Old Boy. Hein. Alors, je ne le conseille pas aux personnes sensibles. Vraiment, mes chéris, là, si vous êtes quand même vraiment, Old Boy, franchement, même si vous le trouvez en DVD, je ne sais pas si vous le regarderez tout de suite. Enfin, il est sorti en 2014, il est très, 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 très dur. Voilà, donc, voilà. Et alors, ils ont cette référence parce que ils se sont penchés sur des œuvres qui mijotent avec colère, indignation, défi. Et puis, en fait, à la fin de cette colère, il y a un commentaire social qui est très fort, avec un style visuel renforcé. Ça, c'est ce qu'on trouve justement dans le film Shorta. Il y a, après cette violence, quoi, il y a une explication. Il faut qu'il y en ait une de toute façon. Alors, un des réalisateurs nous dit « Nous vivons une époque sombre. L'humanité a besoin d'espoir. Il faut être prêt à traverser beaucoup de ténèbres. Mais il y a de la lumière de l'autre côté. » Ah oui, ils sont plein dedans, là. Hein. « Nous croyons, ajoute-t-il, au pouvoir du cinéma comme un moyen de provoquer la réflexion et d'inspirer le changement. Notre but est de faire vibrer et de divertir, mais aussi de susciter des conversations sur un sujet difficile sans solution claire. » Voilà ce qu'ils espèrent une fois qu'on aura vu Shorta. Police. Ils espèrent la réflexion, la discussion, et puis voir effectivement, essayer d'entrevoir des solutions, en fait, là, dans des domaines pas très clairs, short. Hein. Là, il faut être en forme quand même, hein, aussi. Interdit au moins de 12 ans, je l'avais dit. Il faut être en forme pour le voir. C'est un très bon film, mais il faut être... voilà, il faut peut-être voir avant Opération Portugal, hein, voilà.
Ou après,
se mettre en condition. Bon, alors, un dessin animé d'abord, ensuite Shorta, et après, donc, effectivement,
Opération Portugal.
On peut regarder Opération Portugal. Mais il faut faire attention à ça quand même. Hein. Pas deux films dramatiques dans la même journée. Pas, voilà. Faire attention.
Et on va maintenant continuer.
Oui.
Avec un autre film qui s'appelle Cruella.
Oh, Cruella.
Alors, Cruella, est-ce que c'est la Cruella des 101 Dalmatiens?
Si tu nous dis la vérité, tu as droit à une barquette de fraises. Alors?
Mais je ne sais pas du tout.
Ah, alors t'as pas droit à la barquette, c'est moi qui vais avoir la barquette. Oui, Cruella, c'est une comédie, c'est un drame, il y a les deux, bien sûr, enfin, comédie dramatique, bon. C'est un film pour la famille, c'est américain, c'est britannique. Et oui, c'est la Cruella des Dalmatiens. Enfin, presque, en fait. On va voir. Ça se passe dans les années 70 à Londres, en plein mouvement punk rock. Escroc, pleine de talent, escroc. On dit escroc pour une femme, quand même, non? Escroc, pleine de talent, Estella est résolue à se faire un nom dans le milieu de la mode. Elle se lie d'amitié avec deux jeunes vauriens qui apprécient ses compétences d'arnaqueuse et mènent avec eux une existence criminelle dans les rues de Londres. Un jour, ses créations se font remarquer par la baronne von Hellman, une grande figure de la mode, terriblement chic et horriblement snob. Mais leur relation va déclencher une série de révélations qui amèneront Estella à se faire envahir par sa part sombre. Ah oui. Au point de donner naissance à l'impitoyable Cruella, une brillante jeune femme assoiffée de mode et de vengeance. Alors la ressemblance qu'elle a avec la Cruella qu'on connaît des Dalmatiens, c'est qu'effectivement, la Cruella des Dalmatiens était très portée sur la mode. Elle voulait justement se faire des manteaux avec la peau des Dalmatiens, etc.
C'est ça.
Elle avait évidemment un côté très sombre. Mais il n'y a pas de Dalmatien là. Eh ben non, Ils n'y sont pas. Sauf que Cruella, c'est bien un peu la même, c'est le même état d'esprit. C'est la même bonne femme désagréable, méchante, voire féroce. Ça dure 2h14. C'est Craig Gillespie, c'est un réalisateur producteur délégué australien de 53 ans qui a réalisé Cruella. Il a 15 ans de carrière, 13 tournages à son actif. Ah oui, entre 2005 et 2021, il n'a pas perdu de temps non plus. Il a eu pas mal de nominations. Et pour 2023, figurez-vous qu'on aura Cruella 2, qui est déjà presque dans la boîte. Et toujours avec la même actrice qu'on va nommer maintenant, qui s'appelle Emma Stone, qui est une grande, grande comédienne. Ah ben oui, c'est une comédienne américaine. Donc elle est Estella et Cruella, puisqu'il y a, deux personnages. Il y a deux personnages en elle, hein, Estella, et oui. On a Emma Thompson, oh là là, dont on ne dit plus les qualités, bien sûr, qui joue la fameuse baronne von Hellman, chic et snob, qui est une actrice britannique, hein, je le rappelle, là. Et puis on a Emily Bisham aussi, qu'on connaît, qui est américano-britannique. On a Paul Walter Hauser, qui est un acteur américain. Puis on a un britannique, Joel Fry, qui est dans les rôles principaux. On a Mark Strong, on a Kirby Howell Baptiste aussi, qui sont des acteurs britanniques, ceux-là. Voilà, donc pour donner quelques détails, le Cruella 2, qui sortira donc en 2023, on n'a pas encore la date exacte, je l'ai dit, il y a Emma Stone, comme là, Emma Stone est déjà là, ce sont les mêmes acteurs en fait qu'on retrouve, ben oui, je l'avais dit au début. Et Emma Stone, on se souvient d'elle, on l'a vue dans La La Land. C'était elle, Mia, l'actrice principale de La La Land. Mia et son amoureux musicien, Sébastien, qui était joué par Ryan Gosling. On se souvient de ce film magnifique, La La Land. Ben, c'était Emma Stone, l'héroïne de La La Land, sortie déjà en 2017 quand même, hein. Eh ouais, c'est drôle parce que moi j'avais pensé que c'était moins loin que ça. Eh non, c'est déjà 2017. Eh oui. Donc Cruella, ben oui, donc on ne verra pas de Dalmatien, mais on verra des choses pas mal du tout. En fait, c'est un préquel. Alors, un préquel, c'est quoi? On rappelle ce que c'est. C'est l'épisode d'une œuvre dont l'action se situe avant celle des épisodes précédents. Ça paraît clair, là, Damien, ça, le préquel?
Tout à fait, oui.
Voilà. Donc, c'est un préquel au personnage qui est né de la plume de Dodie Smith. Alors, Dodie Smith, c'est une romancière scénariste britannique qui est décédée en 90. Elle avait 94 ans. Et elle a beaucoup de films ont été adaptés de ses œuvres à Dodie Smith. Alors, par exemple, Les 101 Dalmatiens, c'est d'elle, justement. Sorti en 96. Après, il y avait les 102 Dalmatiens aussi, qui sont sortis en 2001 avec Glenn Close, qui jouait justement Cruella. Et puis, on a... Ah, ben, il y avait Gérard Depardieu dans 102 Dalmatiens. Il faisait Jean-Pierre Le Pelt, le couturier français. Et ils s'associaient tous les deux. Aïe, 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 c'était pas joli. Oh, les affreux. Donc, c'est elle, c'est Dodie Smith aussi, à qui on doit justement les histoires de Cruella avec les Dalmatiens. Alors, Emma Thompson a hérité du rôle de la baronne, mais il y avait en lice quand même avant, il y avait Nicole Kidman, Charlize Theron, Julianne Moore, Demi Moore aussi. Elles avaient été pressenties. Et de grandes actrices quand même. Hein. Et c'est Emma Thompson qui en a hérité. Elle devait être quand même assez contente. Il y a dû y avoir une sacrée petite bagarre, là, quand même, hein, dans les castings, enfin, avec les agents artistiques. Ça devait être assez chaud. Alors, normalement, ce film, Cruella, devait sortir en décembre 2020, lui aussi. Eh bien, oui. Alors, Cruella, c'est la 18e adaptation en prise de vue réelle d'un classique d'animation Disney. Il faut dire que le nombre d'adaptations en prise de vue réelle a explosé dans les années 2010. C'est-à-dire qu'on est passé de l'animation aux acteurs. Hein, c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire quand on remplace les personnages d'animation par des acteurs. Ben, il y a eu, par exemple, le livre de la jungle, qui était en 95 sorti. En 2010, il y avait Alice au Pays des Merveilles, en prise de vue réelle. Hein. Maléfique aussi, en 2014. En 2015, il y a eu Cendrillon. 2017, c'était La Belle et la Bête. 2019, Dumbo. 2020, La Belle et le Clochard. 2020, Mulan. On avait parlé du film Mulan en prise de vue réelle à l'antenne. Très beau film. Voilà.
Et
voilà.
On écoute un peu la bande-annonce.
Voilà, la petite Cruella. 2h14, hein, je ne sais pas si je l'avais dit.
Dès le début, je me suis rendu compte que je voyais le monde différemment des autres. Ce qui déplaisait à certains. Mais je n'étais pas faite pour tout le monde. Je suppose qu'ils avaient peur que je sois une psychopathe. Mais chaque jour qui naît nous offre une nouvelle chance. Et moi, j'étais prête à imposer mon style. C'est quoi la chanson déjà ? Je suis une femme. Écoutez-moi rugir. Je n'en suis qu'au début, chérie. Le fait est que je suis née brillante. Très méchante. Et un tout petit peu démente. Je suis Cruella.
Voilà une petite introduction de Cruella sur Radio Entre-deux-Mers. Et maintenant, on retrouve un film qui s'appelle Ibrahim.
Ah oui, très beau aussi. Ah, petit coup de cœur aussi, là, encore. Oh, mais j'ai plein de coups de cœur, là, cette fois. Ah oui, Ibrahim, très, très beau, très, très beau film. C'est le premier long-métrage de Samir Ghesmi, qui est réalisateur, il est scénariste, il est acteur français, il a 53 ans. Il a 33 ans de carrière, il a 2 tournages à son actif comme réalisateur et comme scénariste. En fait, et comme acteur, il a tourné dans à peu près 115 films, peut-être même un peu plus, entre 1987 et 2021. Samir Ghesmi. Et là, c'est son premier long-métrage magnifique qui fait partie de la sélection officielle 2020 au Festival de Cannes. C'est un drame français, donc Ibrahim. Et c'est l'histoire c'est la vie du jeune Ibrahim qui se partage, enfin on raconte sa vie, qui se partage entre son père Ahmed, écaillé à la brasserie du Royal Opéra, sérieux et réservé, et son ami du lycée technique, Achille, plus âgé que lui et spécialiste des mauvais coups. C'est précisément à cause de l'un d'eux que le rêve d'Ahmed de retrouver une dignité se brise lorsqu'il doit régler la note d'un vol commis par son fils et qui a mal tourné. Les rapports se tendent, mais Ibrahim décide alors de prendre tous les risques pour réparer sa faute. Alors, l'acteur est assez formidable. Abdel Bendaher, il s'appelle. On entendra sûrement parler de lui. Je pense qu'il n'a pas fini de tourner, Abdel Bendaher. Il a beaucoup de talent. On a Samir Ghesmi, qui joue le rôle du père, Ahmed. On a Rabanaït Oufella. On a Luana Bajrami. On a Philippe Rebaud. Ah, on est content de retrouver Philippe Rebaud. Oui, qui est un excellent acteur. Ah ben oui. Alors, en fait, Samir Ghesmi, il avait réalisé des courts-métrages. En 2007, par exemple, il y avait un court-métrage qui avait été très remarqué. C'est dimanche, ça s'appelait. Ça durait 30 minutes. Et c'était déjà centré sur les rapports complexes entre un père et son fils. Mais qui avait été très remarqué, ce court-métrage. Alors ici, le réalisateur a voulu raconter une histoire émouvante qui se termine par le père mettant sa main sur la joue de son fils. Alors il dit, le réalisateur, c'était ma gageure. Comment cette main sur cette joue pouvait-elle être l'équivalent d'une explosion spectaculaire ou d'une révélation sidérante ? la question se pose. À partir du moment où j'avais défini cet objectif, nous dit-il, il me fallait bâtir mon récit à l'échelle de cette caresse. Tous les personnages du film sont confrontés crûment à la dureté de la vie. Ils sont à l'endroit le plus rude. Voilà ce qu'il nous dit, le réalisateur. Ils connaissent le manque et cela les rend dignes et humains. Mon travail consistait à les éclairer et à raconter leur histoire. Alors, il a été présenté au festival, au film francophone d'Angoulême, Festival Film Francophone d'Angoulême. Il a eu le Valois d'Or 2020, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénariste, meilleure musique originale. C'est titré Une magnifique histoire d'amour paternel, un triomphe, la révélation Abder Ben Daher, que je ne l'abîme pas parce que c'est un nom qu'on reverra souvent. Il est brillant, ce film, et touchant. Voilà comment c'est titré. C'est vraiment, c'est un très beau film. Très. À voir. Est-ce que j'ai dit, il dure 1h20. Bravo en tout cas à Samir Yesmi, hein, qui a fait un sacré travail là. Et puis
nous continuons maintenant, oui, avec un film qui aurait également dû sortir à l'automne dernier.
Oui.
Film qui s'appelle Gagarine.
Ah, Gagarine. Alors qu'est-ce qu'on se dit, Gagarine?
C'est un film qui va se passer dans les étoiles.
Ouais, c'est pas un gars qui sera allé sur la Lune des fois.
Eh ben non, c'est le nom d'une cité.
Eh oui, c'est le nom d'une cité, Gagarine.
En hommage à Yuri. Très certainement.
Ah ben de toute façon, on va justement en parler. Alors il a fait partie aussi de la sélection officielle de Cannes 2020. C'est un premier long métrage. Il a été nommé au festival justement label les premiers films. Il a une jolie nomination là. Oui, c'est une co-réalisation en fait. C'est Fanny Liattar qui est une réalisatrice, scénariste, actrice française. Et Jérémy Trouille qui est un réalisateur, scénariste également. Ils ont, c'est le quatrième. Il y a eu, ouais, elle, Fanny Liattar, elle a 4 tournages à son actif, dont 3 courts-métrages. Et voilà, là, c'est leur premier long-métrage à tous les deux. C'est en fait, ce long-métrage Gagarine, c'est le prolongement du court-métrage qui est sorti en 2016, qui s'appelait Gagarine également. Il y avait aussi La République des Enchanteurs. Et il y avait en 2018 Chien bleu qui avait été nommé au César du cinéma et qui dure 17 minutes. Ils ont fait des choses très très belles tous les deux. Justement, c'est un duo français, de réalisateurs français. Ils font du bon travail. Ils se sont rencontrés, ces deux-là, à l'occasion de leurs études à Sciences Po dans les années 2000. Eh oui. Et du coup, Sciences Politiques les a amenés jusqu'au cinéma. Pour notre grand plaisir. Alors, Yuri, c'est le héros du film, 16 ans, a grandi à Gagarine, une immense cité de briques rouges d'Ivry-sur-Seine, tu l'as dit, c'est Ivry-sur-Seine, où il rêve de devenir cosmonaute. Quand il apprend qu'elle est menacée de démolition, eh oui, cette cité, Yuri décide de rentrer en résistance. Avec la complicité de Diana, Ousmane et des habitants, il se donne pour mission de sauver la cité devenue son vaisseau spatial. Alors, c'est un très, très beau film, vraiment. Alors, on a Lina Koudri, qui est dans les rôles principaux, qui est une actrice franco-algérienne. Elle a été d'ailleurs le César du meilleur espoir féminin en 2020 pour le film Papicha, qui est sorti en 2019. C'est quoi Papicha? Parce qu'on en avait parlé, Papicha. Les Papicha, ce sont des jolies jeunes filles algéroises. Donc, voilà. Et on a Farida Rawaj, oui, c'est ça, voilà, qui, elle, oh là là, on la connaît, Farida Rawaj, on l'a souvent vue. Elle a plus de 36 ou 40 tournages de cinéma et de télévision. Et puis, il y a une participation de Denis Lavant également. Voilà. On a ah oui. D'ailleurs, Farida Rawaj, pour la situer, si on connaît la série En Famille, elle joue le rôle de la mère de Tarek Boudali, qui est dans cette série. Ben, c'est elle qui joue le rôle de la mère. C'est une excellente actrice, hein, en fait. Et ensuite, on a Jamil McCraven, on a Finnegan Oldfield, qui est un acteur franco-britannique.
Oui, qu'on a déjà vu également.
Tout à fait. On a Alceni Battili également. Voilà, avec ce film, les réalisateurs nous disent on veut montrer que l'immeuble est important, mais qu'au final, ce sont les gens qui restent. Leur relation à ce lieu perdure quoi qu'il arrive. C'est ce qu'on a essayé de capter et de restituer. Une sorte de miroir qui dise la beauté, la complexité de ces vies. La cité Gagarine est un immense bloc de briques rouges de 370 logements. Elle a été construite au début des années 60 à Ivry-sur-Seine, donc, en région parisienne. La cité est inaugurée en juin 1963 par le célèbre astronaute Youri Gagarine. C'est le, qui est le premier homme à avoir effectué un vol dans l'espace, hein, je rappelle. Et en 2014, la décision est prise de démolir la cité Gagarine, dont la destruction débute le 31 août 2019. Voilà, tu parlais de Youri Gagarine tout à l'heure. Ben oui, il était là en 63, lui, pour inaugurer cette cité qui porte son nom, Gagarine.
Gagarine,
où veux-tu qu'on aille ensuite ?
Maintenant, nous allons continuer avec un autre film qui s'appelle Wendy.
Wendy, c'est un drame fantastique américain qui dure 1h52. Oui, c'est ça. 1h38, Gagarine, au fait. Je ne sais pas si je l'avais dit. Alors, 1h52, c'est un film de Ben Zeitlin, qui est un réalisateur, scénariste, compositeur américain. Il a 38 ans, il a 8 ans de carrière, et il a co-réalisé ce film avec Eusa Zeitlin, qui est scénariste et chef décoratrice. Donc, à tous les deux, dans la famille Zeitlin, voilà, on a deux réalisateurs. Pour Wendy, Wendy est élevée par sa mère célibataire. Elle s'étiole dans un quotidien dénué de magie. Un soir, la fillette part à l'aventure en sautant dans un train en marche avec ses deux petits frères, les jumeaux James et Douglas. Au terme du voyage, ils débarquent sur une île mystérieuse où les enfants ne semblent pas vieillir et où règne un garçon rebelle nommé Peter Pan. Oh, Peter Pan, mais oui, on le connaît. Alors, c'est sûr. Alors, ce film, en fait, il a eu quand même, il a eu beaucoup de prix. Il a eu 8 prix à peu près, 22 nominations. Prix Regard Jeune, ils ont eu, il y avait eu la Caméra d'Or, enfin bref. C'est titré une merveilleuse relecture de Peter Pan par un réalisateur visionnaire, par deux réalisateurs visionnaires. On a Devin France qui joue le rôle de Wendy. On a Yashua Mack qui fait Peter Pan. On a Kej Nakin, Gavin Nakin. Eh oui, dans la famille Nakin aussi, là, on en a deux, Kej et Gavin. Et on a Ahmad Kej aussi dans les rôles principaux, Wendy. C'est très joli, un très joli film fantastique. Voilà. La perle rare. Eh oui. Les réalisateurs souhaitaient quand même la recruter des interprètes non professionnels. Alors, ils ont démarché des écoles, ils ont démarché des maisons de quartier, des églises même, pour pousser des gens qui n'avaient jamais envisagé de passer une audition. Voilà. Et c'est de cette manière, d'ailleurs, que l'actrice principale, Devin France, a été trouvée. Elle est originaire de Louisiane. Cette fillette a été découverte en 2015 à l'occasion d'un casting improvisé à la bibliothèque South Lafourche Library, à quelques kilomètres de la Nouvelle-Orléans. Et voilà. Le film a été tourné en Louisiane, on peut le dire.
Et maintenant, on va retrouver un film de John M. Chu qui s'appelle « D'où l'on vient ».
Oui, « D'où l'on vient », romance, drame, c'est musical, c'est américain, ça dure 2h23. C'est de John M. Chu, réalisateur, scénariste, producteur américain. Il a 41 ans, 13 ans de carrière, 23 tournages à son actif au cœur de New York. Le quartier de Washington Heights est celui de tous les possibles. Usnavi, propriétaire d'un petit café dans le quartier, rêve de renouer avec ses origines en République dominicaine. Mais tout se complique quand il croise le regard de Vanessa, une jeune femme qui rêve de devenir styliste. Leur rencontre sur fond de danse et de musique va chambouler leur vie de manière inattendue. On a Olga Meredith, Daphne Rubin Vega, Stéphane Beatrice, Anthony Ramos, Leslie Grace, Corey Hawkins, Melissa Barrera, qui est une actrice mexicaine d'ailleurs, elle. Le film, en fait, c'est l'adaptation de la comédie musicale In the Heights, et qui a été quand même lauréate de 4 Tony Awards, hein, In the Heights. Et John M. Chu, le réalisateur, bah lui, on lui doit Sexy Dance, par exemple, 2. C'est de lui, ça. Alors, c'est titré, on a tous un rêve, comment le réaliser, sans oublier d'où l'on vient. Le film événement de l'été, un véritable hymne à la vie, à voir sur le grand écran, si possible. C'est-à-dire qu'on vous encourage à aller le voir dans une salle.
Au cinéma, l'attend qu'il y ait maintenant.
Eh oui, tout à fait.
D'où l'on vient.
Bah oui, 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 ça a été carté. D'ailleurs, le film a été tourné dans le quartier de Washington Heights, voilà, qui est le cadre spatial du film. Et oui.
Et maintenant, nous continuons avec un film qui s'appelle Freaky.
Freaky, comédie, épouvante, horreur. Alors ça, c'est pour les amateurs d'épouvante, parce qu'il est très bon dans ce domaine, justement, de l'horreur. Il dure 1h42, c'est interdit au moins de 12 ans, ça c'est normal. Pas très sûre d'elle, Millie Kessler, 17 ans, tente de se faire remarquer le moins possible au lycée et de s'endurcir face au sarcasme des élèves les plus populaires. Jusqu'au jour où elle croise la route du boucher, terrifiant tueur en série de la ville. Sous l'effet du mystérieux poignard de l'assassin, Millie et son assaillant se retrouvent chacun dans le corps de l'autre. La jeune fille ne dispose désormais que de 24 heures pour récupérer son corps. Passé ce délai, elle restera coincée dans la peau d'un psychopathe de 50 ans. Avec ses fidèles amis Nila et Joshua, elle se lance dans une course contre la montre pour inverser le sort. Sauf qu'elle a le physique d'un tueur activement recherché par la police, tandis que le boucher, lui, s'aperçoit que ressembler à une adolescente au visage angélique est une couverture idéale pour commettre son carnage. C'est de Christopher Landon, réalisateur, scénariste, producteur américain de 46 ans. Alors lui, tous ses tournages tournent autour de l'épouvante, de l'horreur, de la comédie en même temps quand même. Hein. C'est un grand spécialiste du genre, il n'y a pas de doute. Alors on a Vince Vaughn dans les rôles principaux. On le connaît, Vince Vaughn. Quand on le voit, on le reconnaît. On a Catherine Newton, Celeste O'Connor, Misha Oshervitch. Alors ça, en fait, Freaky, ça se déroule un vendredi 13. Et il est sorti un vendredi 13 novembre 2020 aux États-Unis. Par ailleurs, l'un des personnages s'appelle Strode, en référence à Laurie Strode, qui est l'héroïne d'Halloween sortie en 2018 de David Gordon Green. Et oui, et Jamie Lee Curtis, c'est elle qui est Laurie Strode. Donc là, quand même, c'était un très, très beau film d'épouvante aussi, hein. Voilà, Catherine Newton, elle a été la première choisie pour le rôle. Il n'y a eu personne d'autre. C'est elle la première qui a été prise pour le rôle. Et puis, vite fait, là, hein, vite fait, j'ai 2 documentaires français. Une histoire à soi. Ils s'appellent Anne-Charlotte, Jossiche, Céline, Mathieu. Ils ont entre 25 et 52 ans. Ils sont originaires du Brésil, du Sri Lanka, du Rwanda, de Corée du Sud ou d'Australie. Ces 5 personnages partagent une identité, celle de personnes adoptées. Séparés dès l'enfance de leur famille et pays d'origine, ils ont grandi dans des familles françaises. Leurs récits de vie et leurs images d'archives nous entraînent dans une histoire intime et politique de l'adoption internationale. C'est d'Amandine Gay, qui est réalisatrice, scénariste, chef, monteuse française. C'est un beau documentaire très, très touchant. Et puis j'ai un de Galante, qui est un documentaire opéra français, de Philippe Béziat, qui est un réalisateur, scénariste français, adaptateur. Il a 12 ans de carrière. C'est une première pour 30 danseurs de hip-hop, crump, brick, voguing. Une première pour le metteur en scène Clément Cogitor et pour la chorégraphe Bintou Dembélé. Et une première pour l'Opéra de Paris. En faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique, ils réinventent ensemble le chef-d'œuvre baroque de Jean-Philippe Rameau. Les Indes galantes, des répétitions en représentation publique. C'est une aventure humaine et une rencontre aux enjeux politiques que nous suivons. Une nouvelle génération d'artistes peut-elle aujourd'hui prendre la Bastille? Point d'interrogation. Ah oui, c'est Les Indes galantes de Jean-Philippe Rameau. C'est une très belle musique, hein. Vraiment. Le tournage a duré 2 ans, quand même, hein. Alors Jean-Philippe Rameau, vite fait, compositeur français, théoricien de la musique, né en 1683 et mort en 1764. C'est-à-dire qu'il a connu Louis XIV, Philippe d'Orléans et Louis XV. Yes ! Il en a eu trois pour le même prix.
Et donc n'hésitez pas à aller voir ces documentaires cinéma tant qu'ils y sont.
Et puis sinon, on va trouver les DVD très rapidement.
Merci beaucoup Anne pour toutes ces sorties de la semaine.
Mais
et
oui,
on se retrouve mercredi prochain à 11h.
Voilà, donc mes petits chéris, passez une bonne semaine. Damien, toi aussi, évidemment, tu passes une bonne semaine. Soyez bien heureux, prenez bien soin de vous. Et puis n'oubliez pas que je vous aime. Bisous, bisous.
Silence.
Beaux yeux, tu sais.